Pourquoi pas moi ?
Pourquoi pas moi ?
Pourquoi pas moi ?
Bonjour et bienvenue dans l'émission Pourquoi pas moi ? Ce podcast est initié par la Fondation Valentin AUI. Ce nouvel épisode porte sur la thématique de la santé. Nous irons à la rencontre de Béatrice Hilliard-Chamois, sage-femme, de Guillaume Perronel, pharmacien, et de Judith Halimi, psychologue. Bonjour Béatrice.
Bonjour Caroline.
Dans un premier temps, j'aimerais que vous nous expliquiez votre maladie, votre pathologie, s'il vous plaît.
J'ai une maladie de Marfan, qui est une maladie génétique et qui atteint une protéine qui s'appelle la fibrinine. Et donc, du coup, ce manque de fibrinine fait qu'il y a des atteintes au niveau de l'œil, au niveau des tissus, et notamment au niveau du cœur, au niveau de l'aorte et au niveau des muscles. Donc, j'ai une hyperlaxité ligamentaire et j'ai une atteinte au niveau visuel. J'ai une subluxation du cristallin depuis la naissance. On m'a retiré les cristallins depuis, voilà. Et au niveau du cœur, on m'a opéré deux fois à cœur ouvert.
Je sais que vous avez un sacré profil. Est-ce que vous pourriez nous expliquer dans quel domaine médical vous travaillez ?
Alors, étonnamment, je suis devenue sage-femme. Et donc, je suis sage-femme depuis 1990. Et je travaille depuis 2006 autour des personnes en situation de handicap, puisque j'ai créé une consultation spécialisée pour les personnes en situation de handicap, quel que soit le type de handicap, pour la parentalité et pour la gynécologie.
Et est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez subi beaucoup de discrimination, d'embûches, parce que sage-femme, lorsqu'on est malvoyante, handicapée, ça ne paraît pas simple de prime abord?
J'ai eu vraiment des barrages, surtout à la première année d'études de sage-femme. C'était pas forcément lié à mon handicap visuel, mais c'était lié à la maladie de Marfan. J'ai vu le médecin du travail et il m'a dit que, qu'avec ma tare génétique, je ne pourrais jamais travailler à l'assistance publique, hôpitaux de Paris. Il m'empêchait pas de finir mes études de sage-femme.
C'était dur, c'était assez catégorique quand même comme propos.
Ça a été très violent pour moi.
Vous avez beaucoup de casquettes en termes de sensibilisation pour les femmes en situation de handicap. Comment est-ce que vous travaillez avec ce public, cette population qui est spécifique ?
Quand j'ai créé cette consultation pour accueillir les patientes en situation de handicap, je voulais que ce soit une consultation militante. Je tiens à ce terme-là parce qu'elle n'est faite que des patientes et des couples que je reçois. Elle n'existe que parce que elle est faite comme ça. Elle ne ressemble à rien d'autre. Ça, j'en suis sûre et certaine maintenant. Parce que, à force de me dire, mais non, tu fais pas du truc comme tout le monde. Voilà. C'est les patientes qui elles-mêmes me disent non. C'est tout et son contraire d'ailleurs. Et donc, du coup, c'est vraiment une consultation militante en ce sens où je travaille pour les patientes et les couples et je ne travaille pas pour l'hôpital.
Expliquez. En quoi, en fait, c'est plus militant, à votre avis, qu'une consultation dite lambda pour une femme valide qui se renseignerait dans ce domaine ?
Eh ben, tout simplement parce que j'ai l'habitude de croire les patientes ou les couples quand ils me disent qu'ils ont été eux-mêmes discriminés par le corps médical.
Et ça arrive souvent ?
Je ne remets pas en doute leurs paroles par rapport à, par exemple, un désir de grossesse, mais non, vous n'y pensez pas, vous êtes en situation de handicap, etc. J'ai cette habitude de les croire parce que cette discrimination, moi, je l'ai subie. Je l'ai subie par rapport à ma propre grossesse et par rapport à tout ce déroulé de la grossesse que j'ai eu de discriminant par rapport à ma maladie que j'allais transmettre à mon enfant. Et j'ai cette intime conviction de dire de les accompagner au mieux. Et c'est ça qui est différent. C'est-à-dire que je ne juge pas. Et ça, je pense que c'est déjà très différent d'un soignant, de ne pas juger. Parce que les soignants ont cette sale habitude de se mettre à la place des patients. On n'est pas à la place des patients. Et ça, je crois qu'il faut vraiment se le mettre dans la tête des soignants. Vous ne pouvez pas être à la place des patients. Vous ne savez pas ce qu'ils ressentent, vous ne savez pas ce qu'ils souhaitent, vous ne savez pas leur capacité. D'une même maladie, on n'a pas les mêmes capacités de récupération, etc. Ça dépend de la personne. Et ça, moi, je l'ai compris par rapport à moi, mais je l'ai compris aussi par rapport aux autres.
Vous êtes dans une bienveillance, une écoute, une empathie qui fait que ça vous ramène, comme vous nous l'expliquer, à votre propre histoire. C'est une projection. Donc forcément, il n'y a pas de jugement.
Je ne peux pas juger qui je suis pour moi juger en tant que professionnelle de santé.
Et ça fait toute la différence par rapport à une autre consultation.
Il faut absolument s'occuper du handicap. Ça a été la consigne de s'occuper du handicap, de la vie intime et de la vie affective des personnes en situation de handicap. Et l'ARS, l'Agence régionale de santé, s'est donné un objectif. Ils ont créé en Ile-de-France la consultation en digynéco. Ils forment des sages-femmes, soi-disant, avec un programme très restreint qui vraiment ne laisse pas la place à toutes les situations de handicap. Et ces sages-femmes exercent uniquement en institution, sont mieux rémunérées à la clé, etc., etc. Mais c'est pour faire du chiffre, c'est-à-dire c'est pour faire de la formation, pour faire de la formation et de rendre compte des chiffres. C'est tout. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, de mon côté, on me demande des formations quand ça n'a pas marché avec l'ARS.
Et que faudrait-il faire, pardon, pour que les choses avancent dans le bon sens?
Je pense qu'il faudrait créer une formation qui soit adaptée pour les professionnels de santé concernés sur la vie intime des personnes en situation de handicap. Et surtout, je crois aussi que de donner une information d'un point de vue général sur le handicap et la vie affective pour ces professionnels-là.
Donc pour vous, ça serait instaurer un plus de prévention, voilà, de sensibilisation et de conférences à l'arrivée. Donc on en revient au militantisme.
Tout à fait.
Dans ce domaine.
Et moi, ça, le militantisme, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que c'est vrai que les patientes me disent beaucoup. Or, quand tu vas plus être là, ben oui, je dis à un moment donné, je serai plus là.
Et oui, mais vous formez. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter, Béatrice?
Ah, professionnellement, ben voilà, justement, créer ailleurs et quelque chose vraiment qui tienne le coup et que je puisse partir tranquille.
Merci beaucoup, Béatrice, pour votre témoignage fort, sincère, et je vous souhaite encore une longue vie et un très bon et long militantisme, parce qu'il faut des gens comme vous auprès de populations comme la nôtre.
Merci beaucoup Caroline, merci beaucoup.
Et maintenant nous allons à la rencontre de Guillaume Perronel. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Pour commencer, j'aimerais que vous m'expliquiez quelle est votre maladie.
Alors moi je suis atteint, pour faire simple, du syndrome de Stickler, qui est une maladie du collagène.
Et au quotidien, ça se traduit comment? Qu'est-ce que vous arrivez à voir ou à percevoir?
Alors moi, en général, les gens comprennent bien quand je leur dis que c'est une question de détail. C'est-à-dire pour voir, plus il y a de détails, plus je suis obligé de m'approcher. Plus c'est petit, plus je suis obligé de m'approcher.
Expliquez-nous en quoi consiste votre rôle de pharmacien.
Je suis pharmacien hospitalier, c'est-à-dire que je travaille dans un établissement de santé avec une pharmacie à usage intérieur. Mon cœur de métier, ça reste toujours la validation des médicaments et le circuit du médicament, ou gérer le circuit du médicament au sein de l'établissement. C'est-à-dire tout ce qui est, pour faire simple pour ceux qui sont habitués, de tout ce qui est livraison, commande, etc. Mais ça va bien plus loin que ça, c'est-à-dire tout le réglementaire, la distribution au sein des équipes, la gestion dans les infirmeries, la gestion des médicaments thermosensibles, des stupéfiants, toutes les problématiques de compatibilité entre tel ou tel médicament, entre tel dispositif ou tel médicament. Et qu'on s'occupe également de tout ce qui est des dispositifs médicaux, donc faire avancer également la pratique au quotidien avec des nouveaux DM. Donc il y a toute cette partie-là également de rendez-vous commerciaux, éventuellement d'amélioration, de prise en charge des patients. On a tout ce qui est entretien pharmaceutique avec les patients, toutes les problématiques liées aux médicaments, en fait.
C'est très complet. Et c'est un secteur professionnel qui vous a toujours attiré, malgré la maladie, le handicap?
Au moins, ça fait 20 ans que je veux faire pharmacien. Donc moi, je suis un peu un ovni dans le milieu.
Et comment cela se traduit au quotidien? C'est-à-dire que vous mettez un aménagement, une adaptation en place?
Non, moi, le gros avantage que j'ai, c'est que je n'ai pas besoin d'aménagement. Le seul aménagement que j'ai demandé quand je suis arrivé, parce qu'à la clinique, on travaille sur des ordinateurs portables. Ça a été de pouvoir me mettre un écran un peu plus grand, mais j'avais pas besoin d'un écran immense. Hein. Juste un écran qui doit faire quoi 50 par 30.
Et ça n'est pas fatigant visuellement en termes de concentration?
Non, pas du tout. Non. Après, c'est toujours compliqué, parce que comme je disais, comme c'est de naissance, moi j'ai toujours été habitué comme ça. Donc au final, le corps s'adapte.
Et justement, vous avez expliqué que c'était depuis la naissance que vous êtes atteint de votre déficience visuelle. Vous avez une scolarisation classique. Et comment se sont passées vos études en termes d'inclusion?
Alors moi, la seule véritable aide que j'ai eue au niveau de mes études, bon, ça a été le tiers-temps, ça c'était fondamental, le tiers-temps, mais c'est surtout lors de la première année concours, parce qu'après 5 ans, j'ai fait l'internat, et l'internat, j'ai pas eu d'aménagement, à part le tiers-temps. Mais sur ma première année, j'avais pas mal en diversité, donc les profs donnaient les cours à l'avance, et après les cours étaient imprimés.
Est-ce que globalement, vous avez subi de la discrimination ou de la stigmatisation?
Alors, côté corps enseignant, ça s'est très bien passé. Après, côté étudiant, ben, vous connaissez le milieu estudiantin et le milieu de maintenant, quoi.
Et cette formation universitaire a duré combien de temps?
Moi, j'ai fait 10 ans d'études.
À vous écouter, on a l'impression que votre déficience visuelle n'a pas été une entrave en dehors de votre détermination et de vos compétences.
Alors là où ça a été un problème, au niveau professionnel, quand j'ai dû trouver un stage en pharmacie d'officine, là, ça a été par contre très compliqué. J'ai dû poser plus d'une centaine de CV. Et là, c'était la première fois où clairement, on m'avait dit que le handicap était un problème. Oui, là, on me l'a clairement dit. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je me suis plus battu pour avoir l'internat, parce que l'internat, pharmacien hospitalier, les métiers sont bien, bien plus demandés. Et quand vous travaillez à l'hôpital ou en clinique privée, vous êtes salarié de grands groupes, vous êtes salarié des hôpitaux. Donc finalement, le frein à l'embauche en handicap, il y a beaucoup moins de freins.
Et vous travaillez seul ou en équipe?
J'ai une préparatrice, à savoir, on est dans une toute petite équipe. C'est surtout elle qui fait tous les piliers.
Donc il y a une complémentarité. Hein. Mais est-ce qu'elle vous aide parfois concernant le handicap?
Zéro.
Jamais?
Jamais. Moi aussi, la seule chose à laquelle je lui demande, c'est de lire, comme des fois c'est écrit trop petit, 2-3 trucs. Mais ça arrive une fois tous les 4 mois. Hein. Et moi, je suis plus sur de la qualité, sur du fond, sur de la responsabilité. Donc c'est pour ça que les métiers ne sont pas tout à fait les mêmes.
Quel est votre rôle au sein des patients?
Là, je sais que au sein des patients, on va faire souvent un point sur un traitement à l'entrée et à la sortie du traitement et à la sortie de l'hospitalisation. Donc c'est à ce moment-là où je vois un patient tel. Mais ça s'est toujours très bien passé avec la patient tel.
Et eux, ils voient que vous êtes malvoyant. Il n'y a pas de réaction de leur part, hein, négative ou positive?
Non, jamais. Après, vous savez, quand vous parlez de malade à malade, souvent le discours n'est pas biaisé. C'est ce que j'ai toujours dit. Moi, j'ai pas eu besoin de m'adapter puisque finalement, ma vision a toujours été comme ça, et pour moi c'est comme ça, c'est normal de voir comme ça. Moi je sais pas comment les gens valident de voir, donc j'ai pas de comparatif, j'ai pas de repère, je sais pas si vous comprenez. Pour moi c'est ma normalité.
Et si vous aviez un conseil à donner à des jeunes étudiants ou des personnes en reconversion qui aimeraient faire le même métier que vous, quel serait-il?
D'arrêter de croire que la pharmacie c'est justement la simple vente de médicaments. C'est le métier qui est le plus représenté au sein de la pharmacie, mais c'est juste un tout petit pan des métiers de la pharmacie. On en a des milliers, et nous, dans notre métier pharmacien hospitalier, ben déjà, vous avez une assurance de travail, et là-dessus, vous savez que vous ne serez jamais au chômage parce que vous êtes un métier très demandé, et au-delà de ça, on est un métier tellement riche et tellement extraordinaire, on peut faire des milliers et des milliards de choses. Les gens ne se rendent pas compte. Vous pouvez travailler ensuite au ministère, vous pouvez travailler dans les ARS, vous pouvez travailler dans des entreprises lambda, vous pouvez travailler dans tout ce qui est le sanitaire, dans tout ce qui est l'alimentation, dans l'armée.
Comme c'est un métier qui est assez mal connu du grand public et encore plus des malvoyants ou des aveugles, comment est-ce que vous avez su qu'il y avait cette formation et ces années d'études?
Tout simplement dans un forum métier quand j'étais en 6e, je savais que je voulais travailler dans la santé. Et c'est une anecdote assez rigolote que j'aime à raconter. C'est qu'on est allé, je savais que je voulais travailler dans la santé. Et donc c'est à Palavas à côté de chez moi, là. Ils avaient fait ça. Donc je me suis de suite orienté vers le système de santé. Et là, il y avait une feuille qui récapitulait un peu divers métiers de la santé, notamment de la pharmacie. Et en haut à droite, il y avait écrit pharmacien-chercheur en pharmacocinétique. J'ai pris ça, j'ai dit à ma mère, c'est ça que je veux faire. J'avais 11 ans. Ma mère m'a dit, c'est très bien, mon fils, il n'y a pas de problème. Bon, j'ai fait pharmacie hospitalière, mais je ne suis pas devenu chercheur et encore moins en pharmacocinétique.
Et ma dernière question, même si je connais la réponse au vu de notre échange, vous êtes épanoui professionnellement?
Ah oui, mais moi j'ai cette chance extraordinaire d'adorer ce que je fais. Moi, si je pouvais bosser tous les jours dans la vie, je travaille.
Merci beaucoup, Guillaume.
Merci à vous.
Et maintenant, nous allons à la rencontre de Judith Halimi. Bonjour Judith.
Bonjour Caroline.
Dans un premier temps, j'aimerais que vous nous expliquiez quel est votre handicap visuel, s'il vous plaît.
Alors en fait, je suis non-voyante et j'ai perdu la vue quand j'avais 22 ans. J'étais très malvoyante, je suis née, j'étais très myope. Et puis j'ai fait des décaments de la rétine et... À force d'opération, ben, il s'est avéré que j'ai perdu la vue, en fait.
Concernant votre profil professionnel, pourriez-vous nous expliquer un peu le cursus qui a été le vôtre ?
Aujourd'hui, je suis psychologue clinicienne. J'ai été diplômée en 2008-2009. C'est une reconversion professionnelle, puisque moi, je n'étais pas du tout dans cette pratique-là. J'avais été formée comme secrétaire, comptable, j'ai eu un diplôme. Et puis, en perdant la vue, j'ai dû me réorienter, mais j'ai pris un petit peu de temps, parce que perdre la vue, c'est une réadaptation à la vie, c'est une façon de se reconnecter aussi à la vie courante et quotidienne. Et je pense que ce métier-là dormait dans un coin de ma tête, et que ça s'est imposé à moi comme une évidence. Et du coup, j'ai repris mes études et j'ai réussi à avoir mon diplôme.
Et cela fait combien de temps que vous exercez ? Dans quelles conditions ?
Alors en fait, j'ai eu très très rapidement une opportunité de m'installer en cabinet. Et puis, je travaille moi aussi sur Caen. Donc mon cabinet est à Paris, dans le 9e. Et puis sinon, je travaille sur Caen où je vais deux fois par mois. Donc c'est un ancien éducateur de chiens guides de Paris qui attendait que je sois diplômée pour m'embaucher. Et donc j'ai commencé, dès que j'ai eu mon diplôme, c'est-à-dire en 2009, j'ai commencé à travailler avec lui en 2009 et à partir régulièrement à Caen pour le travail en fait.
Et auprès de quelle population exercez-vous ?
Au cabinet, j'ai du tout venant et plus des personnes valides, donc des jeunes personnes valides. Je dois avoir une ou deux personnes déficientes visuelles. Et puis concernant Caen, là c'est une école de chiens guides, donc c'est des personnes déficientes visuelles, et une autre association qui s'appelle Clin d'œil, et là effectivement c'est aussi des personnes déficientes visuelles. Mais sur Paris c'est quasiment que des personnes valides en fait.
Et quelle est leur réaction quand ils apprennent que vous êtes non-voyante ?
Alors j'ai eu quelques personnes qui ont été surprises, qui ne sont pas rendus compte tout de suite d'ailleurs, puisque ça ne se voit pas vraiment tout de suite chez moi. Et puis, j'ai eu des personnes aussi qui sont venues. J'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues par le bouche à oreille. Elles le savaient, et même, j'ai envie de vous dire, elles venaient aussi parce qu'elles savaient qu'elles n'auraient pas de regard qui juge, qui... n'était pas dans le jugement au niveau du regard, pas de façon de scruter ou d'observer. Et elles venaient exprès pour ça, en fait.
Et on vous pose des questions, justement, sur le fait d'être une psy atypique, si je puis dire ?
C'est rare. C'est très, très rare. Les gens n'osent pas vraiment me questionner sur... Quand ils l'ont fait, c'était parce que j'étais accompagnée de mon chien guide. J'ai jamais de questions personnelles. En fait, je suis une psychologue à part entière. Il n'y a pas... comme quand on va chez son psychologue, on ne lui pose pas de questions sur sa vie. Moi, c'est exactement la même chose.
Pour en revenir à votre parcours scolaire... Concernant la réorientation dans ce domaine, comment est-ce que ça s'est passé ?
Alors en fait, j'ai repris mes études, je suis partie à l'université, j'étais à Paris 7, il y avait un très bon relais handicap qui m'ont beaucoup aidée et accompagnée. Quelques professeurs ont été très présents, j'ai eu quelques difficultés avec certains professeurs qui, eux, ne comprenaient pas.
Et pardon, ça consistait en quoi ces difficultés ?
Alors, par rapport à l'enregistrement des cours, il y en a qui ne voulaient pas qu'on enregistre les cours.
Incroyable.
Ah, je me suis battue. Je me suis battue, notamment pour tout ce qui était schéma en bio, etc. J'ai dû compenser sur d'autres matières. J'ai essayé de mettre toute mon attention sur des choses qui étaient vraiment très accessibles pour moi, en laissant de côté un peu ce qui était moins. Il y a eu des moments où je me suis un peu déprimée. Je me suis accrochée et j'y suis arrivée. Et j'en suis vraiment très contente. Moi, je conseille à ceux qui veulent faire ce métier de vraiment s'accrocher et de vraiment essayer de passer les barrières en disant « moi, c'est ça que je veux faire, c'est ce pourquoi j'ai envie d'y arriver ». Donc mettre de côté ce qui vous paraît difficile, mais si vous en avez vraiment envie et que c'est ça que vous voulez faire, allez-y, battez-vous, ça vaut vraiment le coup. Faites-vous aider. Faites-vous accompagner.
Par
les relais handicap qui sont là, qui sont normalement dans les universités, là, présents, et qui doivent vous aider dans vos démarches, dans vos besoins quotidiens. Enfin voilà, il y a plein de gens qui peuvent vous aider pour vos documents. Mais ce n'est pas honteux de se faire aider. Et il faut, quand c'est nécessaire, savoir demander de l'aide, c'est important.
Malgré les embûches, il y a encore de l'entraide et des gens efficaces et compétents et surtout humains et bienveillants.
Tout à fait.
Et est-ce que l'évolution du numérique vous a aidé dans vos études ?
Ah oui, complètement. Moi, j'ai tout fait de façon numérique. Et effectivement, est-ce que j'y serais arrivée sans tout ça?
Ça simplifie bien la vie.
Ah,
et au quotidien, vous utilisez beaucoup aussi le numérique?
Oui, oui, oui. Je travaille comme ça. Mes comptes rendus, ben, je les fais sur mon ordinateur. Je lis des textes grâce au numérique. J'utilise aussi beaucoup l'audio dans mes enregistrements quand j'ai besoin d'enregistrer des entretiens, quand je bouquine aussi beaucoup des livres en audio. Enfin, voilà.
Est-ce que vous avez un retour de vos pairs dans le domaine? De personnes qui peuvent être vos amis, vos collègues, par rapport à votre manière de fonctionner?
Alors oui, j'ai quelqu'un avec qui je suis en supervision et avec qui on discute beaucoup de ma façon de travailler, de mes ressentis et de comment je travaille avec mes patients valides ou déficients visuels. Oui, oui, j'ai un retour et ma pratique n'est pas forcément, à part le fait qu'effectivement je peux pas observer, mais je sens, j'ai un ressenti,
l'instinct.
Oui, j'ai un ressenti de la personne, comment elle est, comment elle se présente, enfin comment elle se positionne quand elle s'assoit dans le fauteuil. Alors avant, je pouvais leur serrer, avant le Covid, je leur serrais la main, et là aussi c'était très indicateur pour moi de mes ressentis par rapport à comment la personne se présentait, etc. Aujourd'hui, je me base beaucoup sur la voix et très souvent, j'arrive à savoir dans quel état d'esprit arrivent les personnes qui viennent au cabinet ou que je reçois à Caen. J'arrive à travers la voix, surtout quand c'est des personnes que je reçois régulièrement, à ressentir l'état d'esprit dans lequel ils viennent me voir en fait.
Et en dehors de la difficulté du handicap visuel et du choc que ça a été, bien évidemment, de perdre la vue, hein, est-ce que vous diriez que ce que vous faites actuellement vous épanouit?
Vraiment, je considère mon métier comme un métier passion pour moi aujourd'hui.
Ça s'entend.
Merci. Il faut dégager l'aspect positif du négatif. Aujourd'hui, oui, j'ai perdu la vue, mais le contre-pied, ça a été de trouver quelque chose, un travail qui me passionne, et je l'ai trouvé et j'en suis parfaitement heureuse.
Eh bien, on terminera sur cette belle réponse.
Merci.
Je vous remercie, Judith.
Merci à vous.
Merci aux invités pour leur témoignage et leur sincérité. Pour conclure, le regard sur les malvoyants et les aveugles doit changer. N'oublions surtout pas que le handicap est avant tout du lien humain. À bientôt dans Pourquoi pas moi.
Ce podcast est produit par Access Lab de la Fondation Valentin Ahuy et présenté par Caroline Pilastre.